Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal, local et régional.
Opposition de l'extension des carrières du rive du Beaujolais, une intervention d'Emmanuel Dupuy, conseiller d'opposition, membre de Glaize Renouveau lors du conseil communautaire de l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône ce 22 septembre dernier. Pôle emploi, nouvelle méthode dans ses missions pour insérer durablement les publics. Nous sommes accompagnés de la directrice de l'agence de Villefranche-sur-Saône, Nadine Prona. Et en conclusion, les nouvelles voies 2022 en Beaujolais. Comme nous le confie Olivier Bocongibaud à la programmation du festival itinérant. Calade, le journal. Semaine bleue 2022, journée internationale des personnes âgées et journée des aidants du 30 septembre au 9 octobre. Un couple à deux qui se marie bien. Forte de ses 70 ans d'histoire, la semaine bleue vise à valoriser la place des aînés dans la vie sociale et à promouvoir les contributions que ces derniers, quel que soit leur âge, leur état de santé et leur niveau d'autonomie, peuvent apporter. Alors, nous dit-on, changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues et faisons vivre les solidarités intergénérationnelles. La Journée internationale pour les personnes âgées est un événement majeur pour valoriser les seniors au sein de notre société. Pour cette nouvelle édition, le thème principal est la résilience des personnes âgées dans un monde en transformation. À l'échelle mondiale, cette journée civile vise aussi à anticiper les enjeux sociaux, économiques et environnementaux pour l'avenir. Autre thème propre à la Journée internationale des personnes âgées, l'intersection entre la discrimination fondée sur l'âge et le sexe aggravant les inégalités, nouvelles et existantes, y compris les stéréotypes négatifs qui combinent l'âgisme et le sexisme. Les aidants sont toutes les personnes aux liens étroits et stables, résidant ou non, sous le même toit que le proche aidé, qui lui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou une partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Il peut s'agir d'un aidant professionnel ou d'un proche aidant, famille, ami, soit. De nombreux progrès ont été accomplis pour améliorer les droits et les aides des aidants ces dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire, car être aidant rime souvent avec besoin d'être aidé également. L'intervention d'Emmanuel Dupuy, conseiller d'opposition, membre de Glaize Renouveau lors du conseil communautaire de l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône ce 22 septembre dernier. Il intervenait contre le projet de l'extension des carrières des rives du Beaujolais à l'ordre du jour, dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme. Les explications tout de suite avec celui-ci.
Oui, alors pour rappel, il s'agit d'un projet qui est porté par la Soréal, qui est une filiale du groupe Platard, et qui consiste à demander l'extension de leur carrière des rives du Beaujolais, qui actuellement se trouve sur la commune d'Anse, et d'en demander l'extension pour 36 hectares sur la commune de Lima.
Alors c'est ce que l'on voit lorsqu'on est sur l'autoroute, en fait.
C'est ça, hein, c'est tout ça, à fait. Hein, ouais. En direction du nord, c'est sur la droite. Voilà, effectivement. Voilà, donc c'est une demande d'extension qui a été déposée a priori en 2020, donc l'origine du dossier, c'est la précédente mandature, mais qui a été repris à son compte par l'exécutif actuel, sous la présidence de Pascal Ronzière. Et donc l'enjeu du conseil communautaire de jeudi dernier, du 22 septembre, c'était de modifier le plan local d'urbanisme intercommunal qui concerne l'ensemble de l'ancienne Caville, de manière à le mettre en compatibilité avec l'extension de cette carrière sur la commune de Lima. Mmh. Donc c'est assez technique, mais derrière ça, pour nous, sachant que je m'exprime également au nom de mes collègues Daniel Lebaille et Vassili Lissi, pour nous derrière l'enjeu c'est vraiment la question de l'extension de cette carrière, de cette gravière.
Alors, quelle est votre interrogation, justement, par rapport à cette extension?
Alors, je dirais qu'on en est maintenant au-delà des interrogations, dans la mesure où il y a eu une enquête publique et le sujet a été mis à l'ordre du jour depuis déjà plus d'un an, un an et demi environ, me semble-t-il. Donc, si vous voulez, pour nous, c'est un projet qui est néfaste et pour plusieurs raisons. La première, évidemment, est environnementale. Parce que, par exemple, la loi énergie-climat de 2019 a mis en évidence la notion d'urgence écologique. Ça signifie donc que tout le monde reconnaît, même au plus haut sommet de l'État, qu'on est dans une situation d'urgence, notamment climatique. Or, il se trouve que ce projet, il a pour but d'approvisionner le groupe Latar en granulat, qui sont destinés à la production de béton. Et le béton, on sait que c'est le produit manufacturé à l'heure actuelle le plus polluant du monde, notamment parce qu'entre dans sa fabrication du ciment, qui est extrêmement polluant. On estime qu'autour de 7 à 8% des émissions de gaz à effet de serre actuelles dans le monde sont dues à la simple production de béton. Donc déjà, d'un point de vue environnemental, il y a un problème, d'autant que l'autorisation qui est sollicitée par la Soréal, par le groupe Latar, donc, elle est sur une durée de 30 ans, donc un horizon très lointain, pour un volume moyen annuel d'extraction qui est estimé à 350 000 tonnes par an, donc si vous voulez, un volume qui est constant. Notre interrogation, du coup, il y en a une, c'est où sont les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a a priori pas d'anticipation de la nécessaire décroissance de la production de béton. Alors, il y a aussi un enjeu économique derrière, parce que ce qui nous a été répondu par l'exécutif, en l'occurrence par Pascal Ronzière, c'est qu'il y a des enjeux en termes de maintien de l'emploi, de production économique. Le problème, c'est que là aussi, on conteste cet argument-là, dans la mesure où là, il y a une autre loi, qui est la loi relative à la transition énergétique et la croissance verte, qui date de 2015, qui fixait clairement des objectifs de réduction de production brute de béton, c'est-à-dire, plus exactement, qu'elle imposait cette loi qu'en 2020, 70% des déchets du BTP soient valorisés, c'est-à-dire soient réutilisés, réemployés, soient recyclés. 70%. Ça signifie donc que, là encore, l'État a mis en place des objectifs de réduction de la production de béton. Et il se trouve que le groupe Latar, par sa filiale Encycla, travaille déjà sur ce recyclage, qui est positif, ce qui est vertueux, mais à notre avis, justement, il aurait dû anticiper cette réorientation et miser beaucoup plus et beaucoup plus vite sur le recyclage, plutôt que de demander une autorisation pour continuer à extraire du béton à un horizon de 30 ans. Si vous voulez, c'est aussi, je pense, un problème de stratégie, de stratégie économique, de stratégie industrielle. Or, notre agglo, elle est compétente en matière économique, elle est compétente en matière d'aménagement du territoire, donc à notre avis, elle aurait pu et elle aurait dû inciter le groupe Latar à réorienter ses activités vers quelque chose de plus vertueux et surtout qui corresponde à la loi, parce qu'à l'heure actuelle, a priori, on n'est pas encore aux 70% de matériaux valorisés parmi les déchets du BTP. Donc il y a là, pour le coup, une mine de croissance vertueuse, on pourrait dire ça comme ça, qui, à notre avis, n'est pas exploitée. Et quand on nous répond que l'objectif, c'est le maintien d'une filière qui produit, enfin qui concerne beaucoup d'emplois directs et indirects sur notre territoire, bah nous répondons que ces emplois, justement, ils sont menacés par le fait que la stratégie qui est déployée à travers cette autorisation par le groupe Latar risque de mener dans l'impasse.
Une transition, en quelque sorte, hein, c'est ça qui n'a pas
c'est
été...
C'est exactement ça.
Voilà, et c'est ce que vous reprochez.
Tout à fait.
La décision a été prise ?
La décision a été votée avec donc 3 voix contre, qui sont les nôtres, celle de Daniel Lebas, Vassili Lissi et la mienne, mais la décision de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal a malheureusement été prise.
Et il n'y a pas de recours.
Alors, en termes de recours, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites dans la procédure, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale a d'ores et déjà été accordée suite à une enquête publique, donc on va se pencher un petit peu plus en détail sur le calendrier à venir, mais voilà. On déplore vraiment, nous, qu'on ait deux visions qui s'opposent, encore une fois. Hein. La vision de l'exécutif actuel, qui est une vision court-termiste, hein, c'est-à-dire on entretient la croissance à tout prix, mais avec une vision qui porte pas vers l'avenir, et celle que nous essayons de défendre, c'est une vision à long terme, sur les 30 ans à venir, c'est-à-dire pour la génération qui va nous suivre et celles qui viendront, et de manière à ce qu'ils ne paient pas les pots cassés de ce genre de décision.
Emmanuel Dupuy est conseiller d'opposition, membre de Glaisier Renouveau. Il intervenait en septembre dernier contre le projet de l'extension des carrières des rives du Beaujolais à l'ordre du jour du Conseil communautaire de l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. Pôle emploi, nouvelle méthode dans ses missions pour insérer durablement les publics. Nous sommes accompagnés de la directrice de l'agence de Villefranche-sur-Saône, Nadine Prona, pour les explications.
Alors en fait, on travaille sur plusieurs axes, parce qu'en fait, l'idée c'est de faire découvrir ces métiers qui recrutent, et qui recrutent pas n'importe comment, ce sont des métiers qui recrutent sur du long terme. En fait, l'idée c'est de pouvoir insérer durablement des publics qui n'ont pas forcément une idée de ces secteurs. Donc en fait, on va sur de la découverte métier. Vous allez avoir ce qu'on appelle de la détection de potentiel, qui est un nouvel outil qu'on a déployé. Alors en parallèle, des lunettes de réalité virtuelle qui seront aussi utilisées par la mission locale. Et ce nouvel outil va, par des petits exercices, détecter les capacités des demandeurs d'emploi à exercer un métier. Donc c'est déployé par secteur d'activité, donc sur le transport, sur l'hôtellerie-restauration, sur les métiers de la santé, notamment l'aide à la personne. Et ça permet de se dire, oui, pourquoi pas, puisque j'ai les aptitudes, pourquoi pas essayer de découvrir ce métier et ensuite faire des immersions, donc en partenariat avec les entreprises, en collaboration avec ces entreprises qui en ont vraiment besoin et qui sont très attentives et qui travaillent en proximité avec nous, pour pouvoir se dire, ces personnes, elles ont les aptitudes, ça leur a plu parce qu'elles sont venues en immersion, et c'est pour ça que je parle de parcours, elles sont venues, elles ont découvert l'environnement de travail. Et maintenant, on peut les former. Et nous, on a toutes les possibilités de formation qui nous sont offertes, que ce soit des formations préalables à embauche directement sur site ou des formations en organisme de formation aussi. Les financements du PIC sont là pour ça aussi. Et nous avons acheté énormément de formations cette année qui sont en lien avec ces métiers en tension.
Et des formations, d'ailleurs, quelquefois, qui se font même dans l'entreprise avec des alternances. Oui. Non, c'est aussi une possibilité, ça.
Soit en alternance, effectivement, puisque l'alternance, c'est vraiment la meilleure façon de s'insérer sur le marché du travail. Ou alors sur de la formation préalable à embauche directement dans l'entreprise, avec un accompagnement spécifique sur cette formation, avec des tuteurs, avec un plan de formation qui est établi avec l'entreprise, qui peut être appuyé par un organisme de formation. On s'adapte au plus près du besoin de l'entreprise sur le poste qui est proposé.
Avec une baisse significative des demandeurs d'emploi.
Alors effectivement, on a le nombre de demandeurs d'emploi a fortement diminué ces derniers temps, puisqu'on a eu un marché qui a explosé au niveau des demandes des entreprises. Justement, c'est une possibilité pour les personnes qui restent sur le marché de l'emploi à intégrer ces entreprises, puisque les employeurs sont prêts à aller plus loin avec ces personnes, et notamment les personnes les plus éloignées de l'emploi. C'est une chance pour elles de s'intégrer sur ce marché du travail qui leur paraissait si éloigné auparavant. Et nous, on est là pour ça, pour faire une belle rencontre entre l'entreprise et le demandeur d'emploi et le candidat potentiel, je dirais, puisque là, on parle de candidat potentiel. Puisque tout est ouvert, on arrive à travailler avec les entreprises en proximité et on a des personnes à qui on essaye de redonner confiance, se dire c'est possible pour moi de trouver du travail et de m'insérer durablement. Donc oui, on va travailler sur des publics qui sont plus éloignés de l'emploi, donc c'est une démarche plus compliquée, mais c'est une démarche qui est très intéressante et on a énormément d'outils à notre disposition.
C'était Nadine Prenat, directrice de l'agence de Villefranche-sur-Saône, dans le cadre d'une discussion concernant les nouvelles méthodes dans les missions d'insertion durable des publics à Pôle emploi. Et pour conclure cette édition, les nouvelles voies 2022 en Beaujolais. Si le mot Beaujolais a disparu des visuels de promotion des nouvelles voies au fil du temps, le festival, lui, reste plus que jamais un cru du Beaujolais, comme nous le confie Olivier Bocongimbaud à la programmation du festival.
Oui, l'idée du festival, c'est qu'il se passe en terre beaujolaise et qu'il y a une vraie force à ce territoire. C'est pas juste Villefranche, la ville centre, et non, il y a une action réelle et un vrai esprit de solidarité, enfin je sais pas comment dire, un vrai esprit commun à toutes ces villes de l'agglomération, et du coup et on est aussi porté par l'agglomération pour que Nouvelle Voie se balade de ville en ville, que ce soit à Glaizé ou à Jassan-Riotier ou même dans des endroits plus intimistes lors de nos afterworks qui sont des concerts dans des lieux atypiques à 17h, donc après le travail dans l'agglomération. Et donc, oui, c'est des lieux atypiques, notamment le domaine du Mont-Verrier à Saint-Julien, ou l'église de Vaux en Beaujolais. Voilà, il y a même le cuvage des compagnons à la Sénat, et là, on pourra y retrouver Abel Chéré.
J'avale et je divague, et vogue en bateau à voile.
Dans l'église, on aura Wendy Martinez.
J'ai assez eu mon amour de charniers au-dedans.
Au domaine du Mont Verrier, il y aura Pyjama.
By the river, I'll be waiting.
Donc c'est des pas de côté en fait, autant pour les artistes que pour les lieux qui accueillent, que pour le public. Et c'est un moment très intime, très fort, où la connexion est privilégiée.
The dreamer, I'll be escaping.
Le festival Les Nouvelles Voix, c'est du 17 au 22 octobre, en Beaujolais. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.